Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à tous, bon dimanche sur RTL. Ça va Sidonie ?
Ça va très bien Thomas, bonjour à vous les curieux. Enfin, quand je vous appelle Thomas, je devrais dire mon roi.
Oui, mais seulement si je tire la fève et alors vous serez ma reine.
Quelle chance ! En cette journée d'épiphanie de Galette des Rois, nous allons en profiter pour vous raconter l'histoire de la pâtisserie. Pourquoi la madeleine a-t-elle une forme de coquille Saint-Jacques ? Pourquoi le baba est-il alcoolisé ? Pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur ? Et pourquoi mange-t-on des galettes de roi ?
Bah oui,
hein ?
Aussi.
Des galettes des rois.
En tout cas, vous allez vous régaler. Tout de suite, on a rendez-vous, tenez-vous bien, avec un agent secret.
La curiosité est un vilain défaut.
Tu travailles pour les services secrets français, tu es OSS 117. Tu as un numéro comme ces vaches que l'on conduit à l'abattoir.
À votre service.
RTL.
Avant de partir, sale espion. Fais-moi l'amour.
Non, je ne crois pas, non. Je n'ai pas aimé le truc sur les vaches.
D'accord, je le retire. Viens.
Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Notre espion à nous est aussi chic, OSS 117, mais il n'a pas proposé de nous faire l'amour, ni quoi que ce soit.
Pas encore.
André Facetal, quelle mise en onde et quel accueil pour l'un des meilleurs agents secrets français. Il a vécu sous plusieurs identités et joué sa vie pour la France. Aujourd'hui, il sort de l'ombre. Jean-Marc Gadoulet, soyez le bienvenu.
Bonsoir,
dans la
merci.
Curiosité. Est-ce que c'est compliqué de parler sous son vrai nom quand, selon vos propres mots, pendant 15 ans, on a été personne et qu'on a travaillé dans le plus grand secret ?
D'abord, je ne suis pas l'un des meilleurs agents secrets, ni le meilleur. Je pense que d'autres qui sont restés dans l'ombre et dans le silence travaillent tout aussi bien, voire mieux. Ont réalisé des missions plus délicates, plus dangereuses et beaucoup plus peut-être que moi.
Donc première qualité d'un agent secret, l'humilité ?
Non. La première qualité, c'est la discrétion. C'est pour ça que je ne suis plus agent secret. Je ne suis plus discret, donc je ne suis plus agent secret.
Et donc c'est difficile, pour répondre à la question que posait Sidonie, de ne plus être, je mets des guillemets évidemment, personne ?
Non, c'est presque rassurant, rafraîchissant. C'est sympa de pouvoir être monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde et avec un nom qui est le sien.
Jean-Marc Gadoulet, vous publiez « Agent secret » chez Robert Laffont. Vous racontez plusieurs de vos missions à haut risque, votre quotidien d'agent secret. Pourquoi vous dites tout aujourd'hui, justement ? Pourquoi vous avez décidé de parler, de raconter ?
Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de l'ombre et de sortir de l'anonymat parce qu'on m'a forcé à le faire. Lors des missions de négociation d'otages des sociétés Vinci et Areva, qui ont duré de 2010 à la fin de 2013 pour moi, j'ai été amené à négocier la libération des 7 otages, que j'ai réussi. Alors que j'aurais dû normalement, comme d'habitude, rester dans l'ombre, ne jamais apparaître, certains de vos confrères m'ont invité sur la scène nationale en dévoilant de façon totalement innommable et ignoble ce que j'étais en train de faire en novembre 2011.
C'est-à-dire que la presse a révélé votre activité ?
Oui, en tous les cas.
Enfin, certains journalistes.
Certains journalistes, bien sûr. Je n'accuse pas toute la presse. D'ailleurs, oui. Je n'accuse personne. Je ne fais que constater qu'un journaliste de Paris Match a sorti un papier, pour rien dire d'autre, qui était ignoble. Car il était le premier papier du genre dénonçant ou accusant une négociation en cours.
Il l'a mis en péril, cette négociation, cet article ?
Oui, totalement, oui. Ouais. Oui, oui. Même si je ne veux pas juger son comportement, il a mis en péril cette négociation, consciemment ou inconsciemment. A-t-il été manipulé ou non ? Ça fera partie des questions auxquelles il devra répondre, oui, comme d'autres d'ailleurs.
Parce que vous avez porté plainte ?
Absolument, oui. J'ai porté plainte il y a quelques jours. J'ai déposé une plainte pour tentative d'assassinat et pour complicité de tentative d'assassinat après m'être porté partie civile dans l'affaire des otages d'Arlit. Ces plaintes qui ne sont pas légères sont argumentées, bien évidemment, et mon avocat qui s'occupe du suivi de la procédure entend bien avoir de vraies réponses.
On va raconter cette mission, Jean-Marc Gadoulet. On est en septembre 2010, 7 otages dont 5 Français sont enlevés au Niger, donc ce sont des salariés d'Areva et Vinci. Vous n'êtes plus dans la partie, on vous sollicite, et vous avez l'idée d'aller voir directement le ravisseur, c'est ça, et de lui poser la question, mais qu'est-ce que vous allez faire des otages ? Ça commence comme ça ?
Oui, en quelque sorte, c'est ça. Les otages de Vinci et Areva sont pris en septembre 2010 sur le site d'Areva au Niger, à Arlit. Et de septembre à septembre, octobre et puis même novembre, finalement, les deux sociétés n'ont aucun résultat satisfaisant, n'ont aucune nouvelle, si ce n'est que les otages sont bien entre les mains d'Abou Zeid, l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI.
Et vous avez des contacts dans la région, Jean-Marc Gadoulet ?
Non, je n'ai aucun contact avec ACMI.
Évidemment avec ACMI, mais avec les Touaregs ?
Oui, absolument.
Et vous dites, c'est ce que vous racontez en tout cas dans votre livre, que vous pouvez aller parler à Abou Zeid, à ce ravisseur, pour tenter de négocier la libération des otages ?
Oui, c'est exactement cela. J'imagine être capable d'aller parler directement à Abou Zeid, en faisant preuve de courage, en faisant preuve de pugnacité, en faisant preuve d'organisation. Et après ces 3 mois de grand silence, aussi bien de la part des autorités maliennes que françaises, les sociétés, notamment Xavier Vuillard, le président de Vinci, me demandent mon avis, me demandent un conseil sur la situation, que devrait-on faire pour avancer sur ce sujet. Et je lui réponds tout simplement, je réponds à son directeur sûreté, qui est avec moi à Bamako, je lui réponds très simplement, Abou Zeid possède les otages, nous le savons, il a revendiqué cette prise d'otages, les otages sont en vie, sinon nous le saurions aussi. Depuis 3 mois, vous n'avez aucune option, donc nous pouvons imaginer que Abou Zeid, qui n'a pas tué les otages, veut en faire quelque chose. Et si vous voulez le savoir, il suffit de lui poser la question.
Comment ça se passe ? Décrivez-nous ce premier rendez-vous.
Ce premier rendez-vous est très original, évidemment, puisque aucun Français avant moi, et encore moins un officier de la DGSE, ne s'était risqué à aller seul voir Abou Zeid dans son repère d'Azifouras, dans le nord du Mali, à la frontière algérienne. Pour moi, ce n'est pas du tout naturel.
Oui, c'est ça, un ex-agent français, ce n'est pas logique.
Raccourcir toutes les voies de négociation en proposant à Xavier Vuillard d'aller parler en son nom devant Abou Zeid.
Rappelez-nous qui est Xavier Vuillard.
Xavier Vuillard, le président de Vinci. Aller tout seul dans le nord du Mali, sans armes, simplement accompagné de 2 émissaires Touareg, c'est très osé. C'est très osé, c'est très risqué, et je vous assure que même après tout ce que vous venez de dire de très élogieux à mon sujet, j'avais très peur, évidemment, mais c'est une peur, comme je l'ai déjà dit, une peur constructive,
une peur nécessaire. Une discussion avec un tel personnage ?
Discuter avec Abou Zeid, c'est simple quand on a une idée en tête. L'idée, elle était simple, c'était d'obtenir la libération des 7 otages d'Areva et de Vinci. Je savais par expérience qu'il fallait d'abord créer un lien, quelle que soit la forme de ce lien, il fallait créer un lien, intéresser mon interlocuteur qui était entouré de combattants qui ne voulaient qu'une chose, c'est que je devienne le 8e otage.
Mais oui, bien sûr. Il y avait cette prise de risque. Et donc créer le lien, instaurer peut-être une amorce de confiance, vous faites comment ? C'est quoi le levier ?
Alors le levier, c'est de convaincre Abou Zeid et aussi, autant que possible, les combattants qui l'entourent, que je suis, un, sincère, et deux, l'unique solution. Étant donné qu'ils ont les otages, qu'ils ne les ont pas tués, ils en veulent donc quelque chose, il s'agit de savoir quoi, ça c'est le premier point, et ensuite il s'agit de leur expliquer qu'en dehors de moi, il n'y aura pas d'autre solution. Donc ça c'est assez simple, parce que tout le monde sait que la France, ne négociant pas avec les preneurs d'otages.
Qu'est-ce que vous échangez avec le chef des djihadistes d'ACMI, Abou Zeid ? Parce que vous demandez les otages, mais vous donnez quoi en échange ?
Ah, on donne d'abord l'impression...
Il n'a pas envie de faire cadeau de ses otages, j'imagine.
Il ne s'agit pas de cadeau, il s'agit de convenir, de trouver les éléments de langage, les éléments de négociation qui vont satisfaire un combattant. Alors justement,
Je vous interromps, mais c'est l'argent qu'il veut. On peut dire les choses. Donc,
c'est pas forcément.
Est-ce que vous savez que vous avez une somme à lui proposer ?
Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je sais qu'il va chercher à avoir de l'argent. Je sais qu'il va me demander de libérer des combattants, des chefs djihadistes qui sont enfermés à droite et à gauche. Et justement, la force de mon discours, c'est de lui expliquer et de le convaincre que jamais je serais capable de libérer des djihadistes, puisque je ne suis pas de l'État, je ne suis pas envoyé par l'État, je suis envoyé uniquement par les sociétés. Que jamais l'État ne négociera avec lui, ce qui est vrai, le président Sarkozy et ensuite le président Hollande l'ont suffisamment répété. Donc il n'y avait aucune solution autre pour lui que de récupérer soit du matériel, soit des médicaments, soit de l'argent.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
La mission qui nous réunit aujourd'hui a pour nom de code...
La curiosité est un vilain défaut.
Un de nos agents à Genève travaille déjà sur cette affaire.
Moi aussi, je me demande si ce que je fais a un sens.
Sidonie Bonnec.
J'en ai marre de tout ça. T'as des amis, toi, des vrais, qui ne sont pas dans la maison.
Thomas Hugues.
Tu connais la loi, le secret. Il ne s'agit pas d'émotion, ici, il s'agit d'affaires.
Quel est le quotidien, la vie, quels sont les secrets d'un agent secret justement? C'est ce qu'on vous raconte dans la curiosité avec notre invité Jean-Marc Gadoulet qui a appartenu à l'unité d'élite de la DGSE. C'est le 11e choc. C'est quoi ce 11e choc? Une unité d'action? Le bras armé de la DGSE?
C'est l'unité d'élite de la DGSE. C'est l'unité qui est composée d'agents secrets, d'espions, d'officiers traitants, mais qui ont en plus cette capacité action, c'est-à-dire tous les savoir-faire de commandos spécialisés qui ont des qualités en matière de terrorisme, de contre-terrorisme, d'insurrection, de contre-insurrection, qui savent vivre dans tous les milieux possibles et imaginables, que ce soit l'altitude, le grand froid, le grand désert, la grande chaleur, la jungle et la ville.
Est-ce qu'un agent du 11e choc a, comme James Bond, un permis de tuer?
Bon, le permis de tuer, quand vous êtes engagé dans un combat, le permis de tuer, de toute façon, vous vous battez pour vos valeurs, protéger les valeurs de la nation. Si vous êtes engagé dans un combat, dans un combat, il y a des morts et il y a des survivants.
Oui, là, ça sous-entend une idée de légitime défense. Quand on parle de permis de tuer, c'est éventuellement tuer à 200 mètres avec la précision d'un tir au fusil, quelqu'un qui sort d'une... Vous voyez, on a nos images de James Bond en tête, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bon, bah, ces opérations-là...
C'est possible si c'est un ennemi de
ces opérations-là, elles existent et elles s'appellent l'opération Homo, comme vous le savez tous déjà. Mm-hmm. Ça a déjà fait l'objet de discours dans les médias d'ailleurs, ce n'est un secret pour personne. La France est un très grand pays avec une influence énorme dans le monde et un pays de ce genre ne peut pas ne pas avoir ce genre de savoir-faire.
Si on pense l'inverse, pardon Sidonie, on est angélique.
Absolument.
Mmh. Bien sûr.
Quand on appartient à cette unité d'élite du 11e choc de la DGSE, Service Action, c'est quoi le quotidien? Des entraînements de fous, on maîtrise des arts martiaux incroyables, on apprend, je sais pas, des théorèmes et des listes de, je sais pas, de noms par cœur. C'est quoi votre quotidien? C'est quoi la formation?
C'est effectivement beaucoup d'entraînement, mais on n'est pas maître dans tous les arts martiaux. On se débrouille plutôt bien dans à peu près tous les domaines.
Vous étiez meilleur en quoi? En tir, en art martial, en négociation?
En aïkido?
C'était quoi votre point fort? Tiens, révélez-nous votre
point fort. Non, mon point fort, c'était... Enfin, je trouve que je tire bien.
D'accord, ça doit être très très précis. Comment on rentre au 11e choc? Est-ce que vous en... D'abord, j'imagine que vous avez été militaire avant d'intégrer la DGSE. C'est quoi le parcours, si j'ose dire?
Le parcours, il n'y a pas de parcours type pour rentrer au 11e choc, pour rentrer dans le monde des combattants spécialisés. D'abord, il faut le vouloir. Et le vouloir, c'est difficile puisqu'on ne sait jamais ce qui nous attend dans ce monde-là. Et personne ne parle de ce que l'on fait. Ce que je dis, les sujets que j'ai abordés récemment dans ce livre sont une sorte de révolution dans le monde secret de la DGSE et donc ça contribue un peu à éclairer ce que peut faire un combattant spécialisé, mais ça ne dit pas tout parce que le propre des missions des combattants spécialisés, c'est de faire tout ce qui n'est pas réalisable par les autres.
Ouais. Mais pour bien comprendre, vous connaissiez ce service, vous rêviez d'y entrer, ou alors ce sont eux qui sont venus vous chercher?
C'est un peu des deux, c'est-à-dire que d'abord, je connaissais l'existence d'un service, d'une unité tout à fait extraordinaire, dont je ne savais rien, si ce n'est que c'est une unité qui possédait des missions hors du commun, réservées à des équipes plus ou moins réduites, voire à des individus isolés. Et étant donné que je suis totalement indiscipliné et que je suis un très mauvais officier. Je me voyais très bien dans le rôle du corsaire ou du méchant agent isolé entre deux fronts.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Aujourd'hui, vous êtes dedans jusque-là. Avec un compte bloqué, sans carte bancaire, vous n'irez pas très loin.
Thomas Hugues.
Qu'est-ce que vous avez contre moi? Vous voulez me faire peur, c'est ça?
Sidonie Bonnec.
C'est dégueulasse de me demander ça.
C'est dégueulasse, mais il faut le faire.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais je suis quoi maintenant? Un agent?
Regardez, vous écoutez, vous nous racontez.
Des extraits des films Espions avec Guillaume Canet et Géraldine Payas, et puis Agents secrets Vincent Cassel et Monica Bellucci, des agents de cinéma et un agent secret, un vrai, au micro de la curiosité, Jean-Marc Gadoulet. Pendant des années, la première chose à faire, vous allez nous le confirmer quand vous partiez en mission, c'était de se créer une nouvelle identité. Pour vous y aider, la DGSE dispose de ce bureau des légendes.
Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru.
Bienvenue au bureau des légendes.
Bienvenue dans le plus secret des services secrets.
Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre vrai nom?
Rien. Vous n'êtes pas agent. Vous êtes clandestin. Pourquoi t'es à Paris?
Comment ça, pourquoi je suis à Paris?
Vous avez 5 semaines pour régler cette histoire.
Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa Drucker.
Les légendes sont faites pour ça, pour faire écran.
La bande-annonce, évidemment, de la série Le Bureau des Légendes, produite par Canal, c'est signé Éric Rochant, qui décrit le quotidien d'un agent de la DGSE, faux prof de français à Damas, avec Mathieu Kassovitz dans le rôle principal. J'imagine que vous l'avez vu, cette série, Jean-Marc Gadoulet, elle est crédible?
Ah oui, elle est tout à fait crédible, oui. C'est le quotidien des agents secrets, effectivement, même si c'est arrangé pour les besoins techniques, effectivement, disons que l'esprit est vrai.
Faux prof de français à Damas, c'est une identité que vous auriez pu prendre.
Faux prof de français à l'étranger, avec un peu de préparation, j'aurais pu peut-être le faire. Sans doute pas en France, mais de toute façon, la DGSE ne travaille pas en France. Ouais. De même que la DGSI ne travaille pas à l'étranger, en tout cas normalement. Et donc,
un petit message qui passe là.
Oui.
Donc vous n'étiez pas faux prof. En revanche, vous avez eu différentes identités, Jean-Marc Gadoulet.
Oui.
4, c'est ça?
Oui.
Ça veut dire quoi avoir 4 identités?
On peut avoir 4 identités, on peut en préparer 4. Et dans mon cas particulier, je n'en ai joué que 3. Mais rassurez-vous, je n'en ai pas eu 3 en même temps.
Il y avait qui alors dans ces identités?
Évidemment, je ne peux pas vous dire.
Alors les métiers.
Ah mais si, les métiers.
Bon, j'ai été photographe, journaliste photographe. Oui. J'ai été officier de marine marchande, j'ai été un homme d'affaires.
Vous en aviez la fonction, vous mimiez le métier, ou vous avez appris les rudiments de ces métiers-là pour vraiment vous fondre dans l'émission et dans le décor, dans le contexte du pays où vous étiez envoyé?
Quand on apprend une légende, comme c'est décrit dans le bureau des légendes, on se fond dans une identité, dans une vie, on apprend un métier, on l'apprend réellement, on apprend souvent plus que des rudiments, et on s'immerge dedans avant de partir en mission. On réalise ce faux vrai travail ou ce vrai faux travail.
Donc par exemple, quand vous partez au Kosovo, vous le racontez dans votre livre, on est en 1999, c'est là que vous faites passer pour un journaliste, un photographe, c'est ça. Elle dure 6 mois cette mission, vous aviez quelle apparence et est-ce que vous avez vraiment pris des photos? C'est tout bête ma question, mais vous voyez ce que je veux dire, pour être crédible auprès des confrères.
J'étais un peu plus jeune qu'en ce moment, pour l'apparence, et sinon pour le travail, oui, je faisais vraiment mon travail. J'envoyais des photos à une agence de presse qui les publiait, j'envoyais aussi des articles.
Il y a des femmes dans ce 11e choc, dans cette unité d'élite de la DGSE?
Il y a plein de femmes à la DGSE, il y a plein de femmes agents secrets.
Et dans cette unité-là?
Il y en a aussi.
Mais ce bureau des légendes, en fait, il vous aide à vous apprenez une vie, c'est ça? Vous apprenez quoi? Vous inventez une famille? Vous inventez
c'est eux qui
des
écrivent,
parents
légende, vous
avez... Oui, bon, on invente tout cela, oui, complètement. On invente de façon à pouvoir s'en rappeler, c'est-à-dire quand même... Il y a des trucs dont je ne parlerai pas ici, parce que je ne veux pas fabriquer des apprentis sorciers, mais il y a tout un tas de ficelles, si vous voulez, qui permettent d'enregistrer, d'intégrer tout cela.
Ah oui, des moyens mnémotechniques, quoi.
par exemple, mais il y a d'autres moyens qui permettent d'intégrer ça durablement et d'essayer de supplanter vos vrais souvenirs, votre vraie mémoire et votre vraie connaissance de votre vraie personnalité.
Et alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que de temps en temps, vos vies artificielles créées par ce bureau des légendes se mélangent avec votre vraie vie ?
Ce ne sont pas des vies artificielles, ce sont de vraies vies.
Oui.
Et donc, ce sont de vraies vies.
Donc, ça répond à la question.
Et on se plonge dedans. Donc, il
donc
y a
vous
ne
savez
de...
plus quels sont vos vrais souvenirs et vos souvenirs
si,
inventés.
On fait la part des choses. C'est justement ce qui caractérise un combattant spécialisé, particulièrement un combattant spécialisé, parce qu'en plus, il y a la notion de combat, de pouvoir faire la part des choses entre plusieurs vraies vie.
Jean-Marc Gadoulet, vous racontez dans votre livre Agent secret que vous publiez chez Robert Laffont qu'il faut maîtriser ses yeux quand on est agent secret, qu'on est sur le terrain. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter et dire de vous, ces yeux ?
Les yeux disent ce que vous ne prononcez pas. Les yeux disent lorsque vous imaginez ou lorsque vous mentez ou lorsque vous cherchez. Les yeux parlent sans que vous ayez à prononcer le moindre mot.
Ils font quoi, les yeux qui mentent ?
Ils bougent dans un sens particulier.
Lequel ?
Ils vont vers le bas ?
Ici, ce n'est pas un cours, c'est c'est pas une université.
Mais nous, on est curieux.
Oui, mais c'est un vilain défaut.
Merci infiniment, merci. Jean-Marc Gadoulet. C'est un plaisir de vous avoir au micro de la curiosité. Beaucoup d'histoires encore sur votre quotidien, vos missions et votre belle carrière à lire chez Robert Laffont dans ce livre « Agent secret ».
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.